Et là, dans la soirée, une tempête d'aurore boréale se déclenche dans le ciel. Et pendant 2 heures, j'ai les aurores boréales au-dessus de ma tête qui dansent avec le paysage des fjords, des montagnes. Et c'est juste incroyable, j'en ai pris plein les yeux.
La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com.
L'aventurier du jour, c'est Jonathan qui est avec nous. Bonjour Jonathan.
Hello Florent.
Jonathan, toi tu es un aventurier professionnel, tu as fait moultes aventures depuis des années et des années. Ça fait combien de temps que tu es dans l'aventure ?
Oh, que je me suis vraiment lancé là-dedans, c'est depuis 2000.
Toi aujourd'hui, bien que français, tu es plutôt entre la France et la Norvège.
Ouais, j'aime bien voyager un petit peu. C'est vrai que pour l'instant, je partage mon temps entre France et Norvège et peut-être dans quelques temps, ce sera un autre pays que la Norvège.
Et alors, on a décidé pour cet épisode des aventuriers de faire un petit florilège des moments clés de tes aventures. Il y en a eu différentes d'aventures. Toi, t'aimes bien les aventures au froid quand même, hein, on va le dire.
Oui, exactement. Alors, c'est difficile, mais c'est un univers qu'on connaît pas. Il y a tellement de choses à voir. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'aimerais bien aller un petit peu sur le soleil aussi ces prochains temps.
On va donc faire, j'allais dire le best-of. Je sais pas si c'est le best-of, mais on va voir un petit peu les moments forts que tu as vécu, que ce soit les belles émotions, les grandes rencontres. Côté paysage également, qu'est-ce qui t'a enrichi? On va commencer, si tu le veux bien, avec cette traversée de l'Europe que tu as menée à vélo. C'était quand?
C'était en 2021.
Et il y a des rencontres qui ne s'oublient pas. Celle-ci, c'est une rencontre avec un homme du côté d'Oslo.
Ah, c'était une rencontre incroyable. Donc j'arrive à Oslo, alors l'hiver s'installait déjà en Norvège, les températures fraîches étaient au rendez-vous. Et puis c'est un soir, je suis à Oslo, je m'arrête alors à la périphérie d'Oslo, je regarde ma carte pour un peu voir l'itinéraire à suivre. Et puis je vois un monsieur qui me fixe, et en soi j'étais pas étonné parce que souvent les personnes me regardaient. Parce que le vélo, c'était quand même un attirail, surtout en cette période hivernale. Puis je vois qu'il me fixe et je vais au contact pour engager la conversation. Et puis je vois qu'il me répond pas en anglais, donc on essaie de communiquer. La conversation est super compliquée. Ce que je comprends, c'est qu'il est polonais et donc il parle polonais et un petit peu norvégien. Et moi, je parle français et anglais. Donc on essaye tant bien que mal à se faire comprendre. On est dans un endroit, il y a beaucoup de bars, d'immeubles autour. Il me propose de le suivre, il insiste. Bon, il y a un petit peu cette appréhension, ce côté on n'est pas habitué à suivre des étrangers. Et puis je me dis, allez, tant pis, au pire je me défends, enfin, quoi qu'il arrive, ça va aller. Et puis je le suis, on essaie de communiquer tant bien que mal. On utilise le téléphone Google pour essayer de montrer des images, essayer d'utiliser le traducteur. Tant bien que mal, on communique un petit peu, on passe devant son immeuble, il me montre sa voiture, là où il habite. Et puis on va dans une zone où il y a plusieurs restaurants, on rentre dans une pizzeria, on s'assoit, je vois qu'il commande 2 bières, on commence à boire une bière ensemble, je vois qu'il est super fier de me présenter à tout le monde, de dire que je suis un voyageur à vélo, etc. Et puis 15-20 minutes après, il y a une pizza qui arrive sur la table, une grande pizza, et là il me dit, il me fait comprendre, je t'offre cette pizza, elle est pour toi. Bonne soirée, bon voyage, et puis au revoir. Et je le vois repartir. Ça m'a juste incroyablement touché. J'avais presque les larmes aux yeux. C'était un moment super fort.
Et la pizza, elle t'a tenu au corps pour partir en vélo le lendemain?
Ça faisait du bien, justement, une bonne pizza, de la vraie nourriture au milieu de cette aventure.
Le départ a été pris depuis Genève, et puis ensuite, tu as eu le plaisir de visiter et de profiter de 9 pays. Ça a duré 4 mois, 4 mois de traversée, dont la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, Danemark, Suède, et donc une arrivée en Norvège.
Exactement, l'arrivée à Tromsø, c'était le point final. J'avais en tête de faire un petit trajet de 4000 km. Et en fait, je me suis juste retrouvé à adorer ce que je faisais. Je roulais tous les jours, je traverse les pays, je vois plein de paysages, je fais plein de rencontres, des gens qui me disent « tu devrais aller à tel endroit ». Je vois sur la carte que tel endroit, c'est à Erbro. Je décide juste en fait de faire mon parcours, de faire des détours. Typiquement, je me rappelle en Suède, j'arrive à la frontière et mon but c'était de suivre la frontière, du moins l'océan sur la côte ouest pour rejoindre Oslo. Et là, je me dis, bah, pourquoi pas aller à Oslo? Ça me fait un détour de 1200 km. Mais allez, ça va être une super aventure. Let's go pour Oslo, Stockholm, pardon.
Tu as vécu lors de cette traversée de l'Europe à vélo des moments incroyables et notamment des nuits polaires.
Oui, c'est surtout la dernière nuit du voyage qui était incroyable. Il a fait froid, je suis tombé à une température à moins 25 et j'avais un rêve sur cette aventure, c'était de passer une nuit à rouler avec les aurores boréales au-dessus de ma tête. Je les avais jamais vues. Et puis à cette période-là, du coup, il y a à peu près 2 heures de crépuscule et 21 heures, 22 heures de nuit. Donc du coup, je roulais toute la journée de nuit. Et ce dernier jour, avant d'arriver à Tromsø, j'avais encore un petit espoir. C'était la dernière fois. Je me dis bon, ben peut-être ce soir ça va arriver. Et là, dans la soirée, une tempête d'aurore boréale se déclenche dans le ciel. Et là, j'ai eu un spectacle, j'ai roulé, je me souviens plus exactement, mais peut-être 2 heures. Et pendant 2 heures, j'ai les aurores boréales au-dessus de ma tête qui dansent avec le paysage des fjords, des montagnes. Et c'est juste incroyable, j'en ai pris plein les yeux.
Le mot tempête a été cité, alors je vais en profiter pour aller sur une tempête que tu as vécue il y a pas longtemps. Tu es allé du côté de l'Hardangervidda. On va rappeler ce qu'est l'Hardangervidda.
Alors c'est un plateau alpin, c'est un parc national le deuxième plus grand d'Europe et qui se trouve à peu près au milieu de la Norvège où on peut retrouver des conditions type arctique.
Et donc en février, c'est là où tu es parti, il est connu ce parc-là pour ses conditions météo très difficiles. Il y a des jours blancs, ce qu'on appelle des jours blancs, il y a des vents hyper violents, il y a de fortes chutes de neige également. Et toi, tu as été bloqué dans la tempête.
Exactement, donc Hardangervidda, c'est quand même le seul endroit où Amundsen, le plus grand explorateur polaire du début du XXe siècle, donc qui entre autres a été le premier à atteindre le pôle sud ou à traverser le passage du nord-ouest du Canada, a failli perdre la vie dans une tempête, donc les conditions sont réelles. Normalement, c'est les 2 premières semaines de février qui sont les plus tempétueuses, mais Dame Nature est ce qu'elle est, des fois elle change un petit peu ses plans, et là ça s'est retrouvé sur les 2 dernières semaines de février, à la période où on y était. Et effectivement, on a essuyé une tempête, on a été bloqué 36 heures sous tente, on a reçu entre 1,50 m et 1,80 m de neige avec des vents à 115 km/h. Et là, le risque pour notre vie était réel et on a vraiment dû se battre pour survivre, pour déneiger la tente, pour pas se faire ensevelir. Et puis ça a été des heures et des heures de combat parce qu'il fallait combattre pendant 2 heures à monter un mur de neige, déneiger pour décaisser la tente, rentrer dans la tente 30-40 minutes pour se reposer parce qu'on était à bout de force, ressortir pour se battre 2 heures. Et ça a été comme ça pendant 36 heures. Ah, c'est un phénomène assez inquiétant parce que tu sais pas ce qui va se passer. Si c'est que déneiger la tente, c'est pas un grand problème, mais à tout moment tu te dis le vent va s'engouffrer, la tente va se soulever, ça va se déchirer. Moi, si je suis bloqué dans le sac de couchage, je vais pas avoir le temps de mettre mes vêtements, de me mettre en protection. Et puis, tu sais que s'il y a un grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage, ça peut très mal tourner.
Tu utilises le « on ». Là, tu étais avec ta compagne, c'est Carrie, avec laquelle tu étais sous la tente.
Exactement, Carrie, donc ma partenaire avec qui on fait les aventures, donc on est tous les deux aventuriers professionnels, on vit de ça et on fait les aventures ensemble.
Le grand froid, ça te connaît, tu as une expérience du grand froid à moins 36 degrés également.
Oui, alors ça, c'était sur une autre aventure au plateau du Finnmarksvidda, donc qui est au nord de la Norvège. Alors, on va dire que le plateau du Finnmarksvidda et du Hardangervidda, c'est les deux grands monuments, donc les deux grandes étapes pour des expéditions polaires plus engagées à faire en Norvège. Et sur Finnmarksvidda, qu'on avait fait l'année passée en mois de mars, on a eu des températures très froides, effectivement. On a passé la semaine avec des températures comprises entre moins 20 et moins 36. Et c'est une sacrée expérience. Genre, j'aimerais bien un jour atteindre le moins 40 pour avoir une température qui commence par un 4. Mais c'est une expérience assez incroyable parce que tout gèle. Juste un exemple, quand tu dors sur le dos, ben forcément, quand tu respires, ta respiration est chaude, donc elle monte en l'air. Et juste le temps qu'elle monte, ta respiration gèle et t'as des gouttelettes de glace qui te retombent sur la figure. Donc tu peux pas dormir sur le dos, c'est tout se complique avec ces températures.
C'est une traversée qui a duré 90 km en ski poulka. La poulka, on rappelle que c'est ce grand chariot que tu vas tirer, mais qui pèse lourd hein, finalement, parce qu'il y a toutes tes affaires dedans.
Ouais, bah par exemple sur Hardangervidda, donc on est parti sur une période de 12 à 15 jours. La poulka de carré était à 45 kg et la mienne à 70 kg.
Quand ça glisse bien, tout va bien, mais alors de temps en temps, elle peut se bloquer dans la neige et être finalement comme un boulet.
Effectivement, j'ai deux cas sur Hardangervidda, c'était très compliqué parce que les conditions de neige étaient très difficiles, ça a monté, il y avait du vent de phase, donc la poulka c'était très dur. Il y a un moment on a passé une petite montée, alors pas très longue mais qui était à 30 degrés, j'ai failli tomber en arrière plein de fois parce que la poulka me tirait. Et on a une autre aventure, on était parti sur le parc du Børgefjell, pareil qui se retrouve à peu près au milieu de la Norvège, et on s'est littéralement retrouvé bloqué par les poulkas, impossible de les tracter parce que c'était des qualités de neige un peu glacées, la neige s'enfonçait, donc la poulka venait se coincer sur les bords avec la glace et c'était impossible de la tirer. Et on a été au point qu'on a dû installer un système de cordes sur les arbres pour être capable de tirer ces poulkas parce qu'on pouvait tout bonnement pas le faire physiquement.
On part pour un bivouac à présent en Suède, avec des animaux qui sont toujours dans le coin quand on fait un bivouac. Comment on appréhende la présence animale autour de soi qui fait partie forcément du décor ?
Alors c'est très 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 difficile psychologiquement de se retrouver en tant que proie, parce qu'on n'est pas habitué en tant qu'humain à se retrouver pas au top de la chaîne alimentaire. Et quand t'es dans le territoire des ours, des lynx, des loups, effectivement, ça peut faire peur. Et je me souviens qu'au part, alors pour une petite nuit en bivouac, rien d'extraordinaire, c'était pas une aventure, juste un petit week-end. Et puis on va loin à l'intérieur de la forêt, on pose le camp, un mac, on passe la soirée, on s'endort. Et puis au milieu de la nuit, un bruit de loup-garou, vraiment. Quelque chose de faramineux, d'effrayant. On dormait tous les deux dans le même hamac avec Carrie, et puis elle se réveille et je la vois un petit peu en panique, qui me demande qu'est-ce que c'est. Moi, en panique, pareil, j'ai le sang glacé, puis j'essaie de trouver une phrase à dire à Carrie pour la rassurer. Je lui dis non, mais t'inquiète, c'est un chien. Elle me regarde et me dit mais Jonathan, tu sais pertinemment que c'est pas un chien, c'est quelque chose d'autre, c'est un ours ou quelque chose. Alors j'essaie de faire Tom Eggman, je dis attends, je sors du hamac. Je vais prendre le couteau, la lampe frontale, et puis on va voir. Alors, je sors du hamac vraiment terrorisé. Je prends mon petit couteau, juste un petit opinel avec la lampe frontale. J'essaie de voir autour. Rien, je cherche. Pas rassuré, au bout de 30 minutes, je retourne me coucher. On essaie de se rendormir. Et puis, 2 heures après, le même bruit, un hurlement, mais terrifiant. Et pareil, on se relève, on essaie de chercher des traces et en cherchant un petit peu contre les arbres, la façon dont le sol était retourné, etc., on a compris que c'était un sanglier. Alors rien de méchant, mais quand tu dors au plein milieu de la forêt qui fait une nuit noire et que tu te fais surprendre par un cri comme ça, et d'ailleurs, si vous voulez, allez regarder sur internet, tapez bruit de sanglier énervé, vous allez voir que le bruit est vraiment effrayant.
épisode spécial de froid intense et de glace. D'ailleurs, tu as déjà vu et d'ailleurs grimpé des cascades de glace, Jonathan.
Alors ouais, les cascades de glace, c'était ma spécialité. J'en fais un petit peu moins maintenant, même si j'aimerais toujours en faire. J'ai grimpé à l'intérieur de crevasses, sur des glaciers ou des grandes cascades de glace gelées. Et j'ai eu plusieurs pépins, j'ai eu quatre presque accidents où j'ai eu une cascade de glace qui s'est effondrée ou une avalanche reçue pendant la grimpe. Et il y a un épisode en particulier où grimper une cascade de glace avec un de mes meilleurs amis. Et puis on commence à grimper, la première longueur était en très mauvaise qualité, il y avait 30-40 mètres à grimper. Du coup la grimpe sans corde parce qu'il n'y avait pas moyen de la protéger ou de la grimper autrement. On arrive au premier relais et puis là on commence à mettre la corde, je commence à grimper la deuxième longueur en tête. Et donc la cascade de glace, pour expliquer rapidement, on grimpe avec piolet et crampons et puis on doit protéger nous-mêmes en installant des vis à glace, ce qu'on appelle une broche. Dans laquelle on va venir clipper la corde au fur et à mesure qu'on grimpe pour se protéger. Et le problème, c'est que je commence à grimper, la qualité de la glace est vraiment exécrable, la glace est toute fine, je vois l'eau couler derrière la glace. Il faut savoir que normalement une cascade de glace, quand on la grimpe, il y a 50-60 cm, voire plus d'épaisseur. Et là, de voir 2-3 cm de glace avec l'eau qui ruisselle derrière, je comprends que le risque que la glace s'effondre est grand et qu'il peut se passer n'importe quoi. Et je deviens lent dans ma grimpe et j'ai mon ami qui me pousse, qui me dit « John, bouge-toi, on n'a pas toute la journée, faut que tu grimpes. » Et là, je lui dis « Ben, laisse-moi tranquille, t'as pas idée des conditions. » Et puis, il voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je continue de grimper. Et il y a un moment, tellement que la glace était fine, j'ai la pointe du crampon. Donc, la pointe du crampon fait 3 cm de long. Elle tape la roche derrière la glace. Donc ça voulait dire qu'il y avait moins de 3 cm de glace. Et là, je comprends que tout va s'effondrer, que tout peut casser à n'importe quel moment. J'ai pas pu mettre de broche à glace parce qu'il y a aucune possibilité d'en mettre. Je suis à 40 mètres du sol. Si je tombe, je tombe 40 mètres plus bas. Et là, je prends la direction d'un arbre. J'arrive à l'arbre, je fais le relais pour assurer mon ami qui monte à la suite de moi. Je le vois arriver tout blanc. Il a compris pourquoi je pouvais pas grimper proprement et là on a juste décidé de faire un rappel pour redescendre tout en bas. Mais le capital psychologique que j'ai mangé ce jour-là, j'ai consommé beaucoup d'énergie et moi j'ai vraiment eu peur de pas m'en sortir.
Tu as pensé à un moment donné que tu allais chuter avec l'ensemble de la cascade qui allait casser sous toi?
Ouais, parce que ça m'est déjà arrivé ça une fois et soit je me suis dit, sans que toute la glace tombe, la glace, la portion où je suis, va s'écrouler et puis je vais tomber, il n'y a pas de corde pour me retenir. Donc j'ai vraiment eu peur ce jour-là.
On continue avec une traversée de la Scandinavie à vélo, traversée automnale en Scandinavie. Vous êtes parti de l'Opéra d'Oslo. Cette fois-ci, c'était une nouvelle fois avec ta partenaire Carrie. Tous les deux avec vos vélos et vos bagages très limités, à peine 50 litres chacun. Pour durer combien de temps pour cette traversée ?
On avait prévu 32 à 35 jours, on l'a fait en 35 jours.
Le plan était de partir d'Oslo à vélo, de traverser ensuite la Suède, la Finlande, jusqu'à Helsinki, puis de prendre le bateau entre Helsinki et Stockholm, avant de revenir à Oslo, toujours avec les fameux vélos qui ne vous auront pas quitté. C'est une aventure qui vous a demandé du temps, mais surtout du courage, parce qu'il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup de froid, il y a eu beaucoup de douleurs.
Oui, effectivement, c'était une aventure costaud parce que le programme était chargé, il y avait 3000 km à faire en un laps de temps assez limité, sans grand confort parce qu'avec nos 50 litres seulement, on n'avait pas la place pour une tente, donc on a pris juste un tarp avec nous. Alors un tarp, c'est une espèce de bâche très très légère qu'on peut mettre par-dessus les vélos pour faire une espèce de tente de fortune ou par-dessus les hamacs pour faire un toit. Et donc du coup, le confort était vraiment spartiate. On est parti début septembre et en Scandinavie, en septembre, les températures sont fraîches, c'est l'automne et sur le nord, c'est déjà l'hiver qui arrive. Et effectivement, sur le nord, on s'est retrouvé à des températures certaines nuits qui étaient négatives. Et on était équipé en mode été, donc avec des vêtements légers, pas très chauds. Et on a dû se battre pendant toute cette période contre le froid et contre la fatigue parce qu'on était à minimum 80 km par jour sans un seul jour de pause, à rouler tous les jours, à fracter notre équipement. Et effectivement, il y a cette fatigue qui se met en place. Il y a eu beaucoup de douleurs pour Carrie au niveau des genoux. Elle a dû serrer les dents pour le faire. Moi, j'ai eu beaucoup de douleurs au cervical. Il y avait cette fatigue qui se mettait en place au fur et à mesure sans aucune pause. Et il a fallu lutter voilà, contre ce froid. Carrie a eu des gelures aux pieds, contre ce confort spartiate, contre l'effort non-stop pendant 35 jours. Donc, c'était une belle aventure, un beau dépassement de soi.
Jonathan, tu es revenu un petit peu plus léger de ce périple, cette traversée de la Scandinavie à vélo, parce que tu es revenu avec une dent en moins.
Oui, alors ça, c'était pas une très belle expérience. On était en Finlande, à peu près au milieu du pays. On était en pleine forêt avec notre camp, hamac et tarpe. Et puis, au milieu de la nuit, je me lève pour aller aux toilettes et j'essaie de mettre ma lampe frontale et je sais pas comment je me débrouille. Je prends un retour de l'élastique, un retour de la lampe frontale à côté de l'élastique qui vient me claquer dans la dent et la dent de devant qui se casse complètement. Donc la panique, il fait nuit noire, on est au milieu de nulle part, on cherche au sol le bout de dent disparu, impossible à retrouver. Et là, psychologiquement, ça a été très difficile pour moi, Carrie a été aussi en panique, parce que la dent de devant, c'est quand même le sourire, c'est un peu le reflet de la personne qui s'évade. Et là, ça a été très difficile de continuer la nuit. Par chance, dans le malheur, j'ai eu une bonne étoile avec moi. C'est qu'on était à 20 km d'une petite ville et dans cette petite ville, ils avaient une clinique dentaire et ils ont accepté de me prendre en urgence et ils m'ont refait une nouvelle dent. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle dent. Il n'y a que moi qui le sais, que moi qui le vois.
Mais et nos sûrement... auditeurs hein, maintenant.
Et qu'ils sont.
Bon, mais... alors, on salue cette clinique dentaire qui t'a sauvé la dent.
Exactement, je leur ai envoyé une carte postale à la fin, une fois qu'on est rentré à la maison pour les remercier.
Quelle sera la prochaine aventure là, d'ici la fin de l'année ?
D'ici la fin de l'année, malheureusement, il n'y aura pas de grosse aventure de prévu. Carrie va peut-être de son côté faire un petit trip à vélo, en gravel, moi pareil, mais peut-être plus en VTT, mais rien de grand de prévu, les aventures seront plus pour l'année prochaine.
Merci Jonathan. On vous retrouve avec Carrie sur le site piokayak.com. À bientôt Jonathan.
À très bientôt Florent, merci.
Et nous on se retrouve dans un mois avec de nouvelles aventures ici avec les aventuriers.
Les aventuriers. Les aventuriers. Un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com.
lafabriqueaudio.com.